Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 27e dimanche. Partant de là, Jésus va dans les territoires de la Judée et de la Transjordanie. Des foules se rassemblent auprès de lui. Selon sa coutume, il les enseigne à nouveau. Des pharisiens s'approchent et lui demandent, pour le mettre à l'épreuve, s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur fait cette réponse.
« Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?»
Ils disent.
« Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. »
Jésus leur dit.
« C'est en raison de la sclérose de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce précepte. Mais au commencement de la création, il les fit mâle et femelle. À cause de cela, l'homme quittera ses pères et mères et il s'attachera à sa femme. Et ils seront les deux en un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Ce que Dieu a accouplé, que l'humain ne le sépare pas. »
À la maison, les disciples l'interrogent à nouveau là-dessus. Il leur dit
« Qui répudie sa femme et épouse une autre est adultère envers elle. Et si elle répudie son mari et épouse un autre, elle est adultère. »
Il lui présente des jeunes enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouent. Voyant cela, Jésus s'indigne et leur dit
« Laissez les jeunes enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. C'est à leur pareil qu'est le règne de Dieu. Amen, je vous le dis, qui n'accueille pas le règne de Dieu comme un jeune enfant, il n'y entrera pas. »
Les ayant serrés dans ses bras, il les bénit en posant la main sur eux.
Auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. La liturgie nous offre aujourd'hui deux courts récits qui semblent avoir peu de liens entre eux. Qu'y a-t-il de commun entre cette vision du mariage et l'accueil de ces jeunes enfants? D'autre part, cette vision du couple est-elle encore parlante pour notre société? Voilà sans doute les questions qui montent à notre esprit à l'écoute de ce passage d'Évangile.
Eh bien, comme à l'habitude, regardons le contexte. Nous sommes dans l'ultime voyage de Jésus vers Jérusalem. Cette montée vers Jérusalem a déjà été scandée par deux annonces de la Passion. Chaque fois, le récit a montré l'incompréhension des disciples, ainsi que l'effort de Jésus pour les faire pénétrer dans le mystère de l'amour qui se donne et livre sa vie. Avant de noter la troisième annonce de la Passion, Marc nous donne quelques exemples de l'enseignement de Jésus. Trois situations sont évoquées. Le mariage, l'accueil de Dieu, à la manière de l'enfant, et la richesse. Comme nous sommes aux frontières de la Judée et de la Transjordanie, l'auditoire de Jésus peut être composé de juifs tout autant que de païens. Notre récit parle donc tout spécialement de gens qui sont venus de Jérusalem et qui sont probablement des émissaires, des chefs religieux, qui veulent connaître plus exactement l'enseignement de ce rabbi qui vient de la Galilée.
Des pharisiens s'approchent et lui demandent, pour le mettre à l'épreuve, s'il est permis à un homme de répudier sa femme.
Une fois de plus, les pharisiens veulent mettre Jésus à l'épreuve. Leur intention n'est donc pas vraiment une recherche de vérité, mais plutôt de forcer Jésus à choisir entre l'un ou l'autre des camps qui s'affrontaient alors. Les discussions existaient en effet entre juifs sur les motifs qui peuvent justifier la répudiation du conjoint. Selon les écoles rabbiniques, on était plus ou moins large dans l'interprétation de la Torah de Moïse. La question posée peut paraître en effet un peu surprenante. Les pharisiens demandent s'il est permis de divorcer. Or, la Torah le permettait, et cela ne semblait pas contesté. Ce qui était discuté, par contre, c'était les raisons valables pour répudier sa femme. La Torah demandait à l'homme de rédiger la raison de la répudiation. Lisons ce texte du Deutéronome au chapitre 24.
Lorsqu'un homme a pris femme et consommé son mariage, si cette femme ne trouve plus grâce à ses yeux, car il a découvert une chose mauvaise en elle, il rédige pour elle un acte de répudiation.
Car il a découvert une chose mauvaise en elle. Eh bien, l'école pharisienne de Shammai comprenait cette chose mauvaise comme une grave infidélité. Tandis que l'école de Hillel pouvait justifier la répudiation par toutes sortes de déplaisirs, y compris celui causé par une femme qui laissait brûler le repas. Shammai rendait plus stricte la clause de Moïse, sans doute parce qu'il voulait ainsi défendre la femme dans une société où elle n'avait que peu de droits, une situation semblable à celle des enfants et des esclaves. La législation s'efforçait probablement de rendre la pratique du divorce plus humaine, en demandant au mari de mettre par écrit l'acte de renvoi. Cette lettre de répudiation devait donc aussi rendre possible le remariage de la femme, en attestant qu'elle était libérée de son lien. Eh bien, Jésus ne va pas se laisser enfermer dans ce dilemme, choisir ou la rigueur ou le laxisme au niveau des motifs de répudiation. Jésus va se situer à un autre niveau. Il prend ses distances par rapport à un problème de permis et de défendu, mais c'est pour s'interroger sur le sens profond de l'union conjugale. On pourrait dire que l'attitude des pharisiens sur ce permis et ce défendu peut nous faire penser à ces chrétiens d'hier qui étaient comme obnubilés par des questions de respect du jeûne eucharistique. Est-ce qu'on a rompu le jeûne si on a avalé quelques gouttes d'eau en se lavant les dents? Est-ce qu'on peut communier si on a dépassé d'une minute le délai prescrit pour être à jeun? Eh bien, ces chrétiens ne voyaient plus le sens profond de ce jeûne. Le jeûne qui veut nous rendre davantage, on pourrait dire, affamés et assoiffés de la nourriture divine. Eh bien, ici, la vraie question à se poser, c'est de se redire pourquoi former un couple. Et c'est à partir de ce que Dieu est profondément, essentiellement, on pourrait dire, qu'il faut penser cette alliance entre un homme et une femme. Le mariage ne se définira pas d'abord par la satisfaction des besoins sexuels, mais par ce qu'il permet, l'accomplissement spirituel de la personne, son accomplissement dans sa communion avec un être qui lui est complémentaire. Et Jésus va faire appel pour cela à deux textes de la Genèse pour décrire sa vision.
Dieu a créé l'humain à son image. Hommes et femmes, il les a créés. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un.
On traduit souvent, d'une façon un peu littérale, « ils ne feront plus qu'une seule chair ». Mais le mot « chair » dans la langue juive désigne l'être humain tout entier, la personne humaine dans sa condition terrestre. Ainsi, on pourrait dire que la plénitude de ce que j'appelle l'humanitude, c'est-à-dire le fait d'être humain, cette plénitude de l'humanitude va être réalisée dans l'harmonie du masculin et du féminin en chaque être. Et ce qu'on traduit habituellement « ce que Dieu a uni », on pourrait le traduire « ce que Dieu a accouplé » puisque littéralement cela signifie « ce que Dieu a attelé sous le même joug ». Le récit d'ailleurs de la Genèse au chapitre 2 explicite bien cela.
« Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Il faut que je lui fasse une aide, qui lui soit assortie. »
Oui, l'homme et la femme sont donc assortis l'un à l'autre. Et c'est dans la longue construction de leur unité que chacun, chacune va pouvoir s'épanouir comme personne. Écoutons ce que dit Albert de Serpry dans « Le mariage, un sacrement ».
Pour vivre cette expérience, le couple a besoin du temps. Chacun possède son rite, mais ne dispose pas du temps de l'autre. Le temps permet à l'amour de se prouver, de s'éprouver. La fidélité est vécue non comme une loi externe, mais comme une exigence de l'amour. La foi donnée ne se reprend pas, sous peine de s'interdire l'accès à ce « nous » recherché et désiré.
Pour Jésus, cette unité correspond à la volonté de Dieu. Peut-être même pourrait-on dire qu'elle correspond à ce qu'est Dieu lui-même. En effet, la prière juive que les Juifs recitent quotidiennement, le Shema Israël, s'exprime ainsi. Le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. Oui, Dieu est unité en lui-même, harmonie, concorde. Dieu n'est pas divisé. dans le récit de Jean, Jésus répétera souvent ce vœu de l'unité à l'image de Dieu.
Moi et le Père, nous sommes un. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Et que le monde puisse connaître que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Si la communion des disciples doit être pour le monde le signe de ce Dieu un qui crée l'unité entre les humains et lui, de même, le couple homme-femme doit être aussi ce même signe pour le monde. C'est ce que dira l'apôtre Paul lorsqu'il va comparer l'union conjugale à l'union du Christ et de l'Église.
Tous deux ne seront plus qu'un seul être. Ce mystère est grand. Je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle.
Dans le récit de Marc, le texte qui précède le nôtre concerne précisément l'unité de la communauté des disciples. Et il se termine par la consigne suivante de Jésus. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Dans la Bible, toute alliance est célébrée avec du sel pour que cette alliance soit fidèle. Partager le pain et le sel avec quelqu'un, c'est un geste sacré d'amitié, une amitié qu'on ne peut rompre. La paix, au sens biblique, c'est la concorde, l'harmonie entre les personnes. La racine du mot hébreu « shalom », qui veut dire paix, signifie en effet ce qui est complet, parfait, intact. L'harmonie du couple apporte donc la paix. L'harmonie du couple est paix pour chacun, chacune des conjoints. Et cette paix du couple contribue à la paix dans la société. La grandeur de l'union conjugale se trouve donc située dans ce grand projet de Dieu qui est de créer avec les humains une communion universelle, une fraternité. À chaque couple, Dieu demande de collaborer et de contribuer à ce dessein. Il le fera à la fois par la création d'une famille unie, mais aussi par son rayonnement dans le milieu où il vit, le quartier, le village, le réseau d'amis.
À la maison, les disciples l'interrogent à nouveau là-dessus.
On se trouve peut-être ici devant une trace de cette pratique de Jésus qui enseigne un double niveau, celui de la foule et celui des disciples. L'enseignement qui est relaté concerne le divorce du couple. Jésus donne sa vision. Celui qui répudie son conjoint et en épouse un autre est adultère. Le texte de Marc fait cet énoncé aussi bien pour la femme que pour l'homme. La Torah, elle, ne prévoyait pourtant pas pour la femme la possibilité de répudier son mari. Certains spécialistes disent que cette coutume était pourtant répandue au temps de Jésus, et peut-être que seul l'était sous l'influence de la loi romaine qui accordait en effet le même droit à la femme qu'à l'homme. D'autres spécialistes pensent que cette mise à égalité de la femme et de l'homme est une application de la pensée de Jésus, mais qui sera faite plus tard par les chrétiens de Rome, puisqu'on sait que la rédaction de l'évangile de Marc a probablement été faite pour les chrétiens de Rome. Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul, lui, fera une exception à cette interdiction.
À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, je dis, c'est moi qui parle et non le Seigneur. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à vivre avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne le répudie pas. Si le non croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. C'est pour vivre en paix que Dieu vous a appelé.
La distinction que fait Paul entre l'enseignement du Seigneur et son propre enseignement est très intéressante. À la fois, ce texte vient confirmer ce que le récit de Marc nous livre comme étant l'enseignement de Jésus. Ce qui est dit en effet en Marc, à propos de l'adultère, est repris ici, qu'on ne se sépare pas. Mais Paul nous montre aussi la vraie liberté des premiers chrétiens lorsqu'il interprète l'enseignement de Jésus afin de l'appliquer à des situations particulière. Lorsque seulement un des époux devient chrétien, il doit s'efforcer de conserver l'union. Par contre, si la partie non chrétienne veut se séparer, alors le chrétien ou la chrétienne ne doit pas se sentir lié. Il, elle, pourra donc se remarier. Et ce qui est intéressant, c'est la raison profonde donnée par Paul. Et cette raison, c'est le but du projet du Christ. C'est pour vivre en paix que Dieu vous a appelé. Le couple doit pouvoir vivre en paix pour porter le témoignage de la paix, pour être artisan de paix. Ce serait donc cette finalité d'être artisan de paix qui doit déterminer notre jugement devant la séparation et le remariage. On le voit, le mystère très grand qu'est l'union conjugale ne se comprend que dans la foi au Dieu qui est un et qui veut rendre un, une, l'humanité. Dieu crée un être qui doit devenir un pour bâtir l'unité de l'humanité. Comme toute communion d'amour, nous ne pouvons vivre cela que dans l'accueil de l'amour. Or, la source de l'amour est Dieu lui-même. Pour vivre la communion dans le couple, il faut donc demander à Dieu ce cœur nouveau, vivifié par son esprit d'amour. Jésus n'a-t-il pas dit d'ailleurs que c'est en raison de la sclérose du cœur que Moïse a accordé la permission du divorce? Le cœur sclérosé, c'est un cœur de pierre, un cœur qui est rebelle à l'amour. Notre cœur est hélas souvent pris par la sclérose. Les églises chrétiennes doivent donc tenir compte à la fois de la grandeur de ce mystère divin qu'est le mariage, mais aussi de la faiblesse des disciples du Christ. Et c'est ce qu'exprime bien la tradition orientale telle que l'a décrit Olivier Clément, un théologien laïc orthodoxe.
L'orthodoxie insiste autant que le catholicisme sur le mystère de la monogamie. Davantage même puisque le remariage d'un veuf n'est pas encouragé et sa sortie d'un rite pénitentiel. Pourtant, s'appuyant sur la parole du Christ, que le divorce est impossible aux chrétiens, sauf en cas de porneia, qui désigne une situation d'adultère et de fornication, il lui arrive de constater la mort d'un couple, d'enregistrer sa dislocation et de conférer de nouveau à un divorcé le sacrement de mariage. La grâce dans le mariage est offerte à un couple, c'est-à-dire à l'accord de deux libertés humaines. Or, dans certains cas limites, il apparaît qu'un repentir commun et un pardon réciproque ne sont plus possibles, que le couple n'existe plus et ne peut plus s'insérer comme tel dans le courant d'amour qui lie le Christ et son Église. Comment l'Église éloignerait-elle de la communion ses destins brisés? Oserait-elle éloigner du Christ la femme adultère, la prostituée? Et que sommes-nous d'autres pour jeter la pierre du droit? Il lui présente des jeunes enfants.
La tradition juive connaissait cette coutume de la bénédiction. Les fils la recevaient de leur père, les disciples de leur maître. La bénédiction appelle l'amour de Dieu sur ceux qui la reçoivent. Alors pourquoi les disciples empêchent-ils les enfants de venir à Jésus? Peut-être que l'enfant, c'est-à-dire celui qui a moins de 10-12 ans, n'est pas encore un disciple, et donc que Jésus ne peut être encore leur maître. À l'époque, plus encore que de nos jours, l'enfant, c'est celui qui ne compte pas. Il est dépendant des adultes pour sa vie. Il reçoit la nourriture, le gîte, l'instruction gratuitement. Alors, de quel droit ces enfants recevraient-ils la bénédiction du maître, eux qui n'ont pas encore atteint l'âge d'être disciples? C'est précisément une telle vision de Dieu que Jésus récuse. Car pour lui, Dieu donne sa bénédiction à tous, généreusement, aux petits comme aux grands, généreusement et gratuitement. Et personne ne peut se prévaloir d'avoir droit à l'amour de Dieu. Il faut savoir accueillir l'amour du Père divin, de la même manière que l'enfant accueille l'amour de ses parents, avec la même gratuité.
Amen, je vous le dis, qui n'accueille pas le règne de Dieu comme un jeune enfant, il n'y entrera pas.
Il faut se laisser instruire par le Père divin, comme l'enfant se laisse instruire par son père et par sa mère. Le mot disciple signifie justement celui qui apprend. Il faut apprendre de Dieu la sagesse de la vie. Il faut apprendre de Dieu ce que c'est qu'aimer en vérité. L'amour véritable ne s'apprend pas dans les livres. Il s'apprend dans l'expérience d'être aimé gratuitement. L'amour vrai ne peut donc s'épanouir que dans l'accueil de l'amour du Père qui est source de l'amour. Et cela est vrai de l'amour du couple, cela est vrai de l'amour fraternel entre tous les fils et les filles du Père. La condition pour apprendre à aimer, c'est donc l'humilité d'un cœur ouvert à se laisser aimer. Et c'est peut-être le sens de cette belle prière de Jésus qu'on trouve au chapitre 11 de Matthieu.
Je te bénis, Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits.
Oh non, pas que la foi en Dieu doit se moquer de l'intelligence, comme s'il fallait être ignorant ou simple d'esprit pour croire. Dieu et la science ne sont pas incompatibles. Le philosophe Jean Guiton et deux astrophysiciens ont publié il y a quelques années un livre, Dieu et la science, où il montre que toutes les découvertes récentes sur l'infini de l'univers, sur sa complexité, sur son ordre, son harmonie, tout cela semble conduire à poser la question de Dieu. Ils ont placé en tête de leur livre cette phrase du grand savant Pasteur : un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Et Madeleine Delbrel, une brillante intellectuelle athée qui s'était convertie à 20 ans, allait dans le même sens.
Dieu ne veut pas de nous une intelligence au chômage, une raison qui démissionne. Si tu méprises la raison, tu n'honores pas la grâce de Dieu.
L'intelligence vraie, comme l'amour, grandit et fructifie dans l'humilité et dans l'accueil. Et Dieu lui-même est humble. Jésus n'a-t-il pas dit qu'accueillir un enfant, c'est l'accueillir lui et celui qui l'a envoyé? Malheureusement, nous avons spontanément la vision d'un Dieu puissant, très haut, lointain, un Dieu certes fascinant, mais aussi un peu terrifiant. Nous imaginons la grandeur divine à l'image de nos fausses grandeurs humaines. Jésus, lui, nous révèle un autre visage de Dieu, le Dieu qui n'est qu'amour. Ce Dieu ne pourra que nous surprendre par son humilité infinie, sa proximité inimaginable, sa générosité, son respect pour nous. Et nous-mêmes, nous serons à l'image et à la ressemblance de ce Dieu si nous savons l'accueillir avec l'humilité de l'enfant.
Je crois en l'homme, Seigneur, car toi le premier, tu crois en celui que tu as créé. Dès le premier instant, alors qu'il n'est qu'un amas de cellules, tu crées en lui un espace inviolable, un jardin secret où tu l'appelles par son nom. Tu mets en lui la promesse d'une dignité infinie, aussi infinie que l'amour que tu lui portes au plus intime du cœur. Tu prends le risque nécessaire à sa liberté, car pour toi, il n'est point d'amour sans liberté. Tu lui fais un si grand crédit que tu l'invites à la responsabilité d'une alliance avec toi. Tu attends son oui en réponse à ton premier oui. Ouvrant l'anneau d'or des fiançailles éternelles, tu lui donnes mission de le refermer pour que tout soit plénitude. Je crois en l'homme au-delà de ce que je peux voir, car toi le premier, tu portes le regard sur la grandeur possible, la générosité possible, la réconciliation possible. Et voilà, Seigneur, qu'en cette confiance bouleversante que tu m'as fait, je te découvre humble et pauvre. Pauvre, tu es tout et tu n'as rien. En ta respiration essentielle, l'amour circule éternellement. Tout va du Père au Fils et du Fils au Père dans le jaillissement de l'Esprit. Abîme insondable que tu communiques avec grâce. Tu es tout don pour l'homme si grand et si petit que je suis. Dieu humble encore qui te mets à genoux devant moi avec le plus infini respect. Pour que mon amour, aussi blessé et misérable soit-il, vienne répondre à ton amour. Seigneur, fais-moi humble et pauvre à ton image, pour que je croie en l'homme. Amen.
Cette prière de Marc Donzé, qui est inspirée de Maurice Zendel, traduit bien ce que le passage d'Évangile d'aujourd'hui nous a enseigné. La grandeur de l'amour se trouve dans l'humilité, cette humilité dont le jeune enfant est le signe par sa condition dans la société. Cette humilité aussi qui seule peut réaliser la communion dans le couple par l'accueil inconditionnel, inconditionnel de l'amour du Père. Un autre exemple va suivre dans le récit de Marc qui viendra compléter cette trilogie, l'exemple de la richesse. Jésus dira du riche qu'il lui est difficile d'entrer dans l'amour de Dieu. Mais ce qui est quasi impossible à l'être humain est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et cette réponse vaut tout autant pour l'amour dans le couple que pour la fraternité dans la communauté des disciples. Tout est grâce, et seul celui qui est humble sait accueillir cette grâce, ce don d'amour que Dieu nous fait.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 256-41-10. Vous pouvez aussi souscrire un abonnement pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.